Hi, Radio Aggressivo then is definitely the best radio station on this region. 89 FM. Go, go, go.
Sylvie Couval est l'autrice de l'ouvrage Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo, qui retrace le chemin de vie de 25 réfugiés de différents pays qui ont fait le choix de demander l'asile en France. Ces témoignages permettent de mieux comprendre les difficultés rencontrées sur le chemin de l'exil et le désir profond de ces migrants de s'intégrer dans un nouveau pays pour reconstruire leur vie. Et le vendredi 21 novembre, vous pourrez assister à une rencontre avec l'autrice de ce livre organisé par l'association AIC Grésivaudan et la médiathèque Jean Pellerin de Pontcharra. Ce sera de 20h à 22h à la médiathèque, donc le 21 novembre. Mais pour commencer cette émission, les amis, nous avons le grand plaisir d'accueillir Sylvie Couval dans la télé au placard. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Sylvie Couval, vous êtes donc militante depuis des années au sein d'associations en lien avec les migrants. Vous avez publié aussi un essai qui s'intitule « Violation des droits de l'homme au Tibet ». Est-ce que pour commencer, je peux tout simplement vous laisser vous présenter un petit peu? D'où venez-vous? Est-ce que vous avez toujours écrit des livres?
Non, j'ai écrit seulement deux livres, donc ceux que vous venez de citer. Mais c'est vrai que depuis très très longtemps, je milite pour des causes. Au départ, c'était le Tibet, parce que je suis particulièrement sensible à la situation des Tibétains en exil et ceux qui sont restés sur place. Et puis après, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à d'autres situations. Et notamment ces dernières années où j'étais responsable de formation dans un organisme pour adultes et je coordonnais entre autres des stages de français de langue étrangère. Donc j'ai rencontré beaucoup beaucoup de migrants, pas seulement des personnes demandeuses d'asile. Et c'est vrai que leurs récits m'ont particulièrement touchée. Parce que certains disaient rien, certains venaient parler avec nous quand la situation se dégradait, quand ils avaient des mauvaises nouvelles de leurs proches, ou des bonnes nouvelles d'ailleurs, mais souvent c'était pas facile. Et donc, il y a certains témoignages qui m'ont vraiment bouleversée, et j'avais envie vraiment de garder une trace de ce qu'ils m'avaient dit. D'expliquer aussi, bon, il y a d'autres personnes qui le font bien sûr, hein, mais d'expliquer au grand public ces parcours-là, ce que ces gens vivaient, tout ce qu'ils avaient dû traverser, leur force, leur capacité de résilience, et puis aussi par rapport à, on va dire, l'ambiance générale qui n'est pas toujours très facile pour les migrants, d'expliquer que ces personnes-là ne venaient pas du tout en France pour toucher des allocations, pour profiter du système, etc. Comme je le dis dans le livre, il y en a beaucoup qui ne savaient même pas qu'ils allaient arriver en France quand ils ont quitté leur pays. C'était la fuite. Et la fuite parce que guerre, parce que violence, parce que menace de mort, parce que torture, etc. Et ce qui me frappait aussi, c'était leur capacité justement à s'intégrer, leur désir de s'intégrer. Pour la plupart, alors on ne va pas non plus tomber dans l'angélisme, mais la plupart, ce sont des personnes qui travaillent dur, qui ont accepté du travail justement qui est sous-qualifié par rapport à ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus, parce qu'ils ne parlent pas suffisamment bien le français. Et j'avais envie de témoigner par rapport à tout ce qu'on entend actuellement. Il y a quand même une ambiance générale de rejet des migrants, hein, que, bon, je fais pas de politique au sens strict du terme, mais on entend des choses qui sont extrêmement choquantes, du racisme. Et puis aussi des chiffres qui sont tronqués, qui sont exagérés, qui sont... j'ai encore entendu quelque chose ces derniers jours, hein, sur l'aide médicale d'État. On disait que c'était une des principales causes de faillite de la Sécu, alors que l'aide médicale d'État, pour citer un chiffre, c'est 1 milliard d'euros, certes, mais le budget de la Sécu, c'est 200 milliards. Donc si on reporte, si on fait un lien entre les deux chiffres, on se dit que ben non, la Sécu n'est pas en péril à cause des migrants qui bénéficient de l'AME.
Ça reste moins d'un pour cent en effet.
Tout à fait.
Pour revenir un petit peu à la genèse aussi de ce livre, vous parliez des cours de FLE, de français langue étrangère. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces cours? C'est des cours vraiment destinés aux personnes qui arrivent d'autres pays qui ne savent pas parler le français.
Alors ces cours dans l'organisme où je travaillais, ils étaient destinés à des personnes qui ont déjà les papiers. Donc, ils ont l'autorisation de travail. Et c'était des cours qui étaient financés par Pôle emploi à l'époque, France Travail maintenant, donc l'État. Et il y avait vraiment toutes sortes de niveaux. On allait depuis des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, en tout cas en français, jusqu'à des personnes qui avaient un niveau quand même relativement avancé. Et tous passaient un diplôme, enfin essayaient de réussir un diplôme qui s'appelle le DELF à la fin de ces cours. Malheureusement, à l'époque où je travaillais là-bas, on avait beaucoup de sessions. Actuellement, les cours de français, on va dire, dans ce cadre-là, ont pratiquement disparu. Donc ça aussi, c'est un grand sujet d'inquiétude pour les militants, pour les formateurs, parce que on se dit, la clé de l'intégration, une des clés de l'intégration, c'est de maîtriser la langue. Et si on ne propose pas à ces personnes de cours, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, quoi?
Dans le livre donc, que vous avez écrit, donc, il part un petit peu de ces cours de français langue étrangère. Dans ce livre, vous retracez le parcours de vie de 25 réfugiés donc, de différents pays. On imagine bien que chacun a ses spécificités, ses richesses entre ses parcours aussi, mais qu'est-ce qu'on entend ici par réfugié? Quelle est la particularité peut-être commune à tous ces parcours?
Oui, alors dans les personnes que j'ai interviewées pour ce livre, parce qu'effectivement je me suis intéressée aux demandeurs d'asile, aux personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, ça ne comprend pas toutes les personnes migrantes, bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux autres, mais il fallait cibler un petit peu ma recherche. Et c'est donc des personnes qui ont demandé l'asile en France, par le biais d'un organisme qui s'appelle l'OFPRA, et qui l'ont pour la plupart obtenu, soit avec une carte de réfugié de 10 ans, soit une protection un petit peu moins, on va dire, longue, qui peut se faire sur une période de 2 ans ou 4 ans, éventuellement renouvelable. En sachant que, pour donner un chiffre aussi, en 2024, en France, il y a eu un petit peu plus de 157 000 demandeurs d'asile. C'est pas beaucoup. Si on le rapporte à la population française, c'est pas une horde de personnes qui demandent l'asile, comme on peut l'entendre. Et sur toutes ces personnes, après tous les recours, toutes les démarches possibles, il y en a que 49% environ qui l'obtiennent. Donc on est sur des chiffres qui sont relativement bas par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres types de migration. Donc on est quand même sur une population qui est assez restreinte. Et c'est des personnes, donc dès qu'elles obtiennent l'asile, qui travaillent. Et pratiquement toutes les personnes que j'ai interrogées ont travaillé tout de suite dès qu'ils ont eu l'autorisation. Il y en a même qui ont travaillé avant. Bon, au noir, on va dire, parce qu'il fallait bien qu'ils vivent, qu'ils fassent vivre leur famille. Mais on est sur des cohortes, sur des nombres qui sont relativement peu importants.
Et donc toutes ces personnes, vous les avez donc interviewées, c'est comme ça que vous avez pu retranscrire leurs témoignages donc dans ce livre.
Alors j'ai recontacté un certain nombre de personnes que j'avais eues effectivement pendant les cours. Certaines ont refusé parce qu'ils voulaient plus parler de tout ça, ou ils avaient peur aussi, hein, parce que même si dans le livre j'ai mis des pseudos. Il y a des personnes qui me disaient, mais moi, j'ai encore de la famille là-bas, j'ai pas envie qu'on me retrouve. Donc voilà, j'ai respecté bien sûr tout à fait ça. Et il y a quelques personnes que je ne connaissais pas, mais dont je connaissais l'histoire, comme un jeune Azéri que j'ai été interviewé à Nantes, que j'ai contacté parce que son histoire était très particulière et que j'avais vraiment envie de le rencontrer.
Ben justement, est-ce que parmi ces 25 parcours, il y a peut-être une histoire, bah, pas tout nous raconter, mais juste nous donner un ou deux exemples de parcours justement qu'on peut retrouver dans ce livre?
Oui, je pense particulièrement à trois personnes que j'ai interviewées qui viennent d'Érythrée. Il faut savoir qu'en Érythrée, la vie est très très compliquée pour les jeunes, mais bon, pour tout le monde. Mais les jeunes sont soumis à un service militaire qui est sans fin. Ils ne savent pas au départ s'ils vont passer 1 an, 3 ans, 10 ans. Donc il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui s'enfuient. Et j'ai interviewé 3 personnes qui sont parties à pied, qui ont quitté leur famille, qui étaient très très jeunes, et qui se sont retrouvées après en Éthiopie, après dans d'autres pays, qui ont eu quand même des parcours, on va dire, très compliqués, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de relations particulières. Donc ils ont réussi à rejoindre la France, où maintenant ils sont parfaitement intégrés. Mais ça a été, quand on les entend raconter ça, il y en a une qui raconte qu'elle a fait une traversée en bateau, et que, ils ne savaient déjà pas où ils étaient, ils étaient dans le noir, enfin comme tout ce qu'on peut entendre avec SOS Méditerranée ou d'autres associations, et qu'à un moment donné, l'autre bateau n'avait pas de moteur, les deux bateaux étaient attachés, on va dire, et ils ont dû couper la corde parce que sinon ils se noyaient tous, les bateaux prenaient l'eau. Et bon, quand elle m'a raconté ça, elle était extrêmement émue, parce que même si maintenant elle est en France, elle est protégée, elle a des enfants, elle parle bien français, ça la hante. Mais après, ce qui m'a frappé aussi dans toutes ces personnes, c'est que malgré les histoires terribles qu'ils ont pratiquement tous vécues, c'est des personnes qui vont de l'avant, c'est pas des personnes qui se plaignent. Et moi, quand je les entendais, je me disais, mais si je devais subir ça, mais dans quel état je serais? Est-ce que je serais capable de supporter? Est-ce que j'aurais pu prendre le dessus, reconstruire quelque chose? Je sais pas. Parce qu'il faut quand même une force de caractère qui est extrêmement difficile, enfin une force extrêmement forte. Une autre histoire aussi d'un jeune Soudanais qui est devenu un ami maintenant avec sa famille. Il est parti à 10 ans. 10 ans, c'est vraiment petit, quoi. Il a quitté sa famille parce que son frère venait de se faire assassiner sous ses yeux. La famille était menacée. Ils l'ont dit, il faut partir parce que tu risques le même sort. Et bon, 10 ans, quand on a des enfants, des petits-enfants, on s'est dit, mais comment, quoi? Comment il a réussi à partir? Comment il a réussi à survivre? Et c'est quelqu'un qui est extrêmement positif.
Ce livre, il est paru en 2024, donc
oui.
L'année dernière.
Oui.
Est-ce que depuis, peut-être les témoignages remontent même à plus longtemps, je ne sais pas depuis quand vous aviez commencé à recueillir des interviews?
Alors j'avais commencé un an et demi avant, parce que c'est quand même très très long. Il faut rencontrer les gens, après il faut rédiger, après corriger l'épreuve du livre, enfin voilà. Mais c'est quand même des témoignages qui sont relativement récents.
Et justement, sous quelle forme ils sont racontés dans ce livre? Est-ce que c'est leur parole exacte que vous avez pu retranscrire en quelque sorte, ou ça avait besoin d'une modification, je ne sais pas, en fonction de comment vous avez pu recueillir les propos, si c'est ce que vous notiez, ou est-ce que vous les enregistriez directement?
Alors, j'avais beaucoup hésité, j'en ai parlé à des personnes autour de moi qui ont fait aussi des recueils, des témoignages, et j'ai fait le choix de ne pas enregistrer, parce que c'est quand même impressionnant, c'est intimidant, ça bloque un peu la parole, et du coup, je prenais énormément de notes, un petit peu en griffonnant à toute vitesse, voilà. Et pour certains, je leur ai demandé de relire pour être sûr que j'ai pas dit n'importe quoi, je me suis pas trompée, j'ai pas tronqué leur histoire. Et puis pour d'autres, quand c'était pas clair, parce que des fois je me disais, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ça me paraît pas logique. Donc je les ai recontactés en disant, est-ce que tu peux me confirmer ça? Est-ce que, voilà. Donc j'ai essayé de le vérifier dans la plupart des cas.
Et vous êtes en lien avec eux depuis, je ne sais pas si vous avez des nouvelles.
Oui, pour certains oui, d'autres non, parce qu'il y en a qui sont partis à l'étranger, il y en a qui ont déménagé, mais il y en a dont je suis encore bien proche, oui, effectivement.
Le titre de ce livre, c'est « Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo ».
Oui.
Comment ce titre vous est venu?
Alors, ce titre, c'est avant d'être dans l'organisme de formation, j'ai fait un remplacement pour Adoma, qui accueillait des Syriens qui étaient venus à Chambéry avec l'aide du HCR. Et donc, on les recevait, on essayait de discuter, bon, parfois avec un interprète, parfois en anglais, parfois, ben, comme on pouvait. Et c'est un journaliste syrien qui avait une belle situation dans son pays. Il avait vraiment, il était reconnu comme journaliste. Et quand il arrivait en France, quand je l'ai rencontré, une des premières fois, il m'a dit ça. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que ça voulait tout dire, quoi. Parce que, effectivement, c'est un monsieur qui ne sera plus journaliste parce qu'il n'a pas un français, effectivement. Il parle bien, mais pas un français parfait. Donc, ben, voilà, il essaye de faire des formations, il essaye de travailler, sa femme aussi. Ses enfants travaillent très, très bien à l'école parce que les enfants ont une capacité d'apprentissage de la langue qui est assez époustouflante. Mais c'était à la fois, il a cassé son stylo, il ne sera plus journaliste, mais il y a quelque chose de cassé en lui. C'est vrai que toutes ces personnes m'ont dit, ben, on fait le maximum pour s'intégrer, on fait le maximum pour travailler, mais quelque part, il y a quand même ben, des personnes qui peuvent avoir des symptômes de dépression, de problèmes de santé, de suite à la torture ou pas, mais c'est quand même des histoires difficiles. Donc, pour moi, c'était vraiment la marque de ce qu'ils avaient vécu. Lui en particulier, mais toutes les autres personnes que j'ai rencontrées, quoi.
Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo. Réfugié, chemin de vie, donc, ce livre offre le témoignage émouvant de 25 personnes issues de divers pays qui ont fait le choix de demander l'asile en France. Il permet d'entrevoir la richesse et la spécificité des parcours des personnes rencontrées, leur force, leur courage, leur désir profond de s'intégrer, de reconstruire leur vie sans faire abstraction des nombreux obstacles à surmonter. Voilà, il fait presque 200 pages, il est paru l'année dernière en mars 2024. Si des personnes sont éventuellement intéressées pour le lire, Sylvie, comment on fait pour se le procurer?
Alors c'est très facile parce que comme c'est un ouvrage qui est référencé, on peut aller dans n'importe quelle librairie avec le titre l'éditeur et on le commande, n'importe où en France. Et puis, on peut également s'adresser à l'éditeur, donc zoner.com. Et l'éditeur est un petit éditeur grenoblois qui a des valeurs éthiques qui correspondent bien aux miennes. Et il l'envoie très rapidement au domicile des personnes. Donc, c'est assez facile.
Donc, zoner.com, c'est ça?
Voilà.
Magnifique. Et puis sinon, il y a bien sûr une rencontre, comme on le disait au début, le 21 novembre, donc ça sera vendredi prochain.
C'est ça.
Dans une semaine, à la médiathèque de Pontcharrat, de 20h à 22h. Qu'est-ce qui est prévu globalement pour cette soirée? C'est surtout un échange?
Alors, c'est un échange, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y aura une des personnes du livre qui s'exprime dans le livre qui sera présent. Et d'autres personnes de l'atelier de français de Pontcharrat qui m'ont demandé aussi à pouvoir venir témoigner. Donc bien sûr, ça sera vraiment très convivial. Et je pense qu'on passera une bonne soirée chaleureuse avec toute personne qui aura envie de parler de ce sujet et qui n'est pas forcément d'accord d'ailleurs avec tout ce qu'on vient de dire. Hein. C'est aussi intéressant d'avoir du dialogue et puis de donner un peu son avis. Donc c'est ouvert à tous, bien sûr.
Bien sûr, donc c'est l'objectif, l'échange. Donc pour cette soirée de vendredi 21 novembre, organisée par l'association AICI Grécy-Vaudan et la médiathèque donc Jean Pellerin de Pontcharrat. C'est là où ça se passe, de 20h à 22h. Je pense qu'on a fait un beau petit tour, Sylvie. Merci beaucoup
d'avoir été avec nous. D'avoir accueilli.
Une dernière question peut-être. Est-ce que vous avez des prochains projets, d'autres livres qui sont sur le feu, quelque chose à rajouter?
Alors, j'ai des projets qui ne sont pas encore concrétisés. J'avais notamment envie de travailler aussi encore de nouveau sur le Tibet, sur la question tibétaine, avec des personnes qui sont exilées en Europe. Mais voilà, ce n'est pas encore du tout précis, on va dire.
On patientera encore un petit peu pour celui-là. En attendant, voilà. Donc voilà, ce livre, il est disponible. Je le dis une dernière fois, quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo. Réfugié, chemin de vie. On va se quitter sur un titre de Bob Marley, parce que pourquoi pas, c'est Zimbabwe, Fight for Our Rights. Merci beaucoup, Sylvie.
Merci beaucoup à vous. À bientôt.
And in this judgment, there is no partiality. Chanel.